100% d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour à tous. Alors que la circulation du virus ralentit pour l'heure en Europe, le Covid-19 bouleverse les codes de notre vivre ensemble. Totalement absent de notre vocabulaire il y a 2 mois, ces mots, masque, gestes barrières, distanciation sociale, sont entrés dans le langage et notre vie au quotidien. Vivre ensemble, mais à distance, ce nouveau credo est particulièrement peu naturel en Italie. Dans la capitale de la Lombardie, Milan, le virus a tué près de 16 000 personnes. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle aller au café n'a plus tout à fait la même saveur. Francine Beretti.
À Milan, la journée commence forcément par un café. Souvent, on le prend debout, au comptoir, en 2 minutes, le temps de saluer le personnel, les habitués, et on part travailler. Les cafés ont rouvert depuis 10 jours, mais avec beaucoup de contraintes. Erika est la patronne du Tribeca, à l'ouest de Milan.
Les tables doivent être distantes d'au moins 1 mètre. On ne peut pas servir juste un café à table. Toute personne qui entre doit d'abord se désinfecter les mains. Si possible, c'est mieux d'avoir des gants. Tout le monde doit avoir un masque, c'est obligatoire. Évidemment, à partir du moment où tu bois ton café, tu l'enlèves. Et nous, à chaque service, on nettoie la table à l'eau et au chlore. Et surtout, comme on doit maintenir les distances, on doit accueillir moins de gens, car le local n'est pas très grand.
Mais pour l'instant, le café d'Erika ne manque pas de place. À 9h du matin, il y a seulement 2 personnes en terrasse, bien éloignées l'une de l'autre. Une chose inconcevable avant la crise sanitaire. Et pourtant, après ce long confinement, le café reste un bon moment pour Roberto.
Prendre un café dans un bar à Milan en ce moment, ça reste malgré tout un plaisir, même si c'est différent d'habitude.
Tout le monde n'a pas renoué avec ce plaisir, loin de là. Pour 100 cafés servis avant, Erika n'en vend plus que 20 et dans une ambiance morose.
Les gens sont effrayés, malgré toutes ces mesures de sécurité, et même si nous respectons toutes les règles. Mais pendant 2 mois, il y a eu ce lavage de cerveau, et les gens ont vraiment peur. Il faudra du temps. Je ne dis pas qu'on retrouvera une vie normale, mais bon.
Beaucoup de cafés de quartier risquent de fermer. D'après les premières estimations, parmi les commerces de proximité, 3 sur 10 préfèrent ne pas rouvrir, car ils jugent impossible le respect des nouvelles normes. Au-delà du problème économique, c'est un symbole de l'art de vivre italien qui est perdu. Antoine est un Français de 40 ans, il travaille à Milan depuis 3 ans. Et depuis le déconfinement, son café quotidien le déprime.
En Italie, je crois qu'en moyenne, les gens vont 4 fois par jour prendre leur petit café. Ça prend 2 à 5 minutes, mais c'est un moment de bonheur. Et quelque part, ce bonheur, il a été transformé en une espèce de parcours du combattant. Parce que il faut faire attention à garder ses distances, s'assurer que le masque est bien mis, on n'a pas le droit de rester au bar, donc on attend dehors. Donc c'est un peu triste, à vrai dire, parce que c'est quand même un élément, la dolce vita, qui se perd.
La sociabilité au café, tellement importante pour les Italiens, a disparu. Fini aussi les discussions après l'école entre parents, grands-parents et nounous qui viennent récupérer les petits. Pas d'école avant septembre. Heureusement, les parcs ont rouvert. Mais là encore, c'est un peu triste. Mariella est la babysitter de 2 petits de 4 et 1 an. Elle sort avec eux tous les après-midi. Pour les enfants de moins de 10 ans, le masque n'est pas obligatoire, mais beaucoup le portent quand même, y compris en plein air.
Quand ils ont donné l'autorisation de sortir, on sentait beaucoup de peur, dans le sens où des parents ne laissaient pas leurs enfants circuler tout seuls ou ne les laissaient pas aller jouer avec d'autres enfants. Et au parc où je vais, les gardes intervenaient dès qu'un groupe se formait pour le disperser. Au début, il y avait aussi cette interdiction d'aller sur l'herbe. Chaque fois qu'on allait au parc, les gardiens déplaçaient les gens. C'est un peu compliqué. Surtout pour les enfants, parce qu'ils ne sont jamais tranquilles et ils veulent bouger d'un endroit à l'autre.
Samuel, un des 2 enfants gardés par Mariella, résume bien ses journées au parc.
La guarda viene.
Les gardiens arrivent, les enfants s'en vont et tous les enfants retournent voir leur maman et leur papa.
Tout doucement, la tension devrait redescendre. D'ailleurs, on voit de plus en plus d'enfants dehors. Mais pour le must de la journée milanaise, l'aperitivo, il faut encore attendre. Erika et son café ferment juste après le déjeuner. Ça ne vaut même pas la peine d'essayer.
L'apéritivo nécessite des rassemblements, tu comprends. On boit rarement l'apéritivo tout seul, surtout après une période aussi longue.
Ça sera probablement le signe de la reprise d'une vie presque normale. Des amis réunis autour d'un verre, de fromage, de quelques olives et de focaccia. Dans quelques endroits de Milan, comme le long des très branchés canaux, les Navigli, le rituel semble reparti. Mais ailleurs, les Milanais craignent la reprise de l'épidémie.
En Irlande, le déconfinement se poursuit à tout petit pas. Les pubs ne rouvriront pas avant le 10 août, dans plus de 2 mois donc, et la pinte de Guinness manque aux Irlandais, tant et si bien que certains établissements ont commencé à livrer des bières à domicile, sur le pas de la porte, pour les habitués du quartier. Emeline Vin est à Dublin.
Les ventes de bières en supermarché ont doublé pendant le confinement. Le Black Stuff, comme on surnomme ici la Guinness, manque aux Irlandais. Avec le superbe temps du mois de mai, une poignée de pubs ont commencé à prendre des commandes par téléphone. Le modèle varie, certains établissements demandent un minimum d'achat, d'autres se limitent aux voisins immédiats ou appliquent une commission. Mais certains chanceux ont pu se faire livrer une pinte de Guinness en voiture ou à vélo, gardée bien au frais dans un conteneur isotherme et scellée par un gobelet en plastique par au-dessus pour éviter le gaspillage. Évidemment, les horaires sont quand même plus restreints qu'en temps normal et souvent le service est disponible du jeudi au samedi de 17 à 22, 23 heures. Ou plutôt, était disponible. Le week-end dernier, plusieurs pubs ont été visés par des opérations de police. La législation sur la livraison de pintes est très floue. La vente d'alcool est réglementée par pas moins de 5 lois différentes et même les juristes s'y perdent. Mais pour vendre de l'alcool à emporter, les pubs doivent détenir une licence spécifique et la consommation ne doit pas s'effectuer à moins de 100 mètres. Pour simplifier, sans renoncer à cette source de revenus, certains pubs se sont donc rabattus sur la livraison de bière en canette, régie par une autre loi, beaucoup plus souple.
Le respect de la distanciation sociale, voilà une question également cruciale dans les transports en commun. Réduits au minimum pendant le confinement, beaucoup doivent les utiliser de nouveau pour aller au travail et la plateforme de covoiturage Blablacar n'échappe pas à la nécessité de s'adapter à ces nouvelles normes et mesures de sécurité. La start-up française a beaucoup pâti de l'interdiction de se déplacer pendant 2 mois. Elle tente désormais de se réinventer. C'est le reportage de Robin Dussène.
Une poignée de Strasbourg-Colmar en une semaine contre une dizaine par jour habituellement. Même chose pour les trajets Paris-Rouen ou les Rennes-Saint-Brieuc plutôt très prisés. Depuis le début de la crise sanitaire, le trafic sur Blablacar est réduit à peau de chagrin.
Comme tout moyen de transport partagé, ou comme tout moyen de transport tout court d'ailleurs, on a vu le trafic quasiment s'arrêter à la fin mars. Et en gros, il n'y a eu aucune activité de fin mars jusqu'à plus ou moins aujourd'hui, en tout cas jusqu'à la semaine dernière.
Nicolas Brusson est le cofondateur et directeur général de Blablacar.
Là, aujourd'hui, on commence à revoir pas mal d'activités sur le covoiturage court distance, donc le covoiturage domicile-travail, qui chez nous est le produit Blabla Lines, donc qui n'est pas le Blablacar le plus connu, mais qui est une autre application qu'on a lancée il y a 2 ans pour les trajets typiquement de 20 à 40 km. Et on commence à voir, j'ai envie de dire, des frémissements sur Blablacar, mais tant que la limite de 100 km est en vigueur, la réalité, c'est que les voyages longue distance sont très très limités.
Et pourtant, la plateforme a pris les devants pour s'adapter à cette nouvelle ère de la distanciation sociale. Les trajets sont restreints en nombre de passagers par la plateforme elle-même, qui annonce la couleur à chaque tentative de réservation. Un pop-up s'ouvre alors et présente un petit croquis montrant 2 personnages masqués, accompagnés du message suivant.
Afin de garantir la distanciation physique, les conducteurs peuvent désormais choisir d'accepter uniquement un passager assis à l'arrière du véhicule.
Nicolas Brusson le concède volontiers, cette mesure n'est pas très commerciale, mais elle répond selon lui en tout point aux attentes des usagers et permet en plus de faire respecter les gestes barrières.
En fait, on limite le nombre de contacts en faisant du covoiturage versus d'autres modes de transport, et donc on peut respecter une distanciation physique relativement bonne dans la voiture, ce qui est quand même assez unique par rapport à tout autre moyen de transport partagé où on est évidemment 20, 30, 50 ou beaucoup plus dans des rames de métro.
Nour est une habituée du covoiturage. Un week-end sur deux, elle quitte son domicile strasbourgeois et rentre voir ses parents à 1h30 de là, à côté de Metz. La jeune femme de 23 ans voit d'un bon œil les dispositions prises par Blablacar et se dit prête à aller encore plus loin.
On peut toujours mettre un film dans sa voiture pour être mieux, comme un peu du cellophane ou une pochette plastique, pour vraiment distinguer les deux habitacles. Ça ne me dérangerait pas du tout de le faire si c'est pour partager mon trajet. Je fais à peu près 120 km tous les deux week-ends. C'est pas rien, surtout quand il y a un péage. Donc j'en profite. Et puis, si je peux mettre les distanciations et prendre la sécurité moi-même, je le fais.
Même si les affaires reprennent progressivement, on est encore loin de la pleine activité pour la start-up française aux 90 millions d'utilisateurs. C'est pourquoi Blablacar a lancé mi-avril, pendant le confinement, un nouveau produit qui répond au petit nom de Blabla Help.
Le concept, c'est les personnes qui sont véhiculées peuvent aider les personnes qui ne le sont pas pour faire leurs courses.
Une nouvelle application pour smartphone à laquelle Nour a immédiatement adhéré.
C'est tout bête, mais c'est pas le fait d'aider quelqu'un, parce que dans mon entourage, je peux aider aussi sans avoir besoin d'une appli. C'est surtout l'effet Blablacar qui est assez sain comme application, qui est assez sain comme groupe. Et ça donne tout de suite confiance pour entrer dans l'application et donner son coup de main à des inconnus.
L'heure semble donc être à la diversification pour le groupe Blabla. À partir du 5 juin, les trottinettes en libre service du suédois Voi Technology passeront sous double pavillon, Voi et Blabla Rail.
Comment continuer à vivre ensemble à l'ère du Covid-19 ? On en parle aussi cette semaine dans le Courrier international où après une longue pause due au confinement, on retrouve nos confrères. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Léa Lisa.
Vous nous proposez cette semaine un détour par l'Espagne où on se demande, y aura-t-il un rebond des séparations après le confinement ?
Oui Léa Lisa, pour certains couples, la cohabitation forcée et en continu a été une épreuve parfois insurmontable. El País Semanal nous emmène à la rencontre de trois d'entre eux à Madrid. Il y a par exemple Ana et Fran, dont la relation battait déjà de l'aile avant le confinement. Pour ces deux quadragénaires, après 15 ans de vie commune, cette période a été la goutte de trop, ils vont se séparer. D'ailleurs, Ana avait déjà trouvé un appartement avant la mise en place du confinement et elle dit s'être sentie piégée par la situation. Ailleurs, dans la capitale du pays, Reno a découvert pendant le confinement que sa compagne flirtait avec une autre femme par texto. Enceinte, elle a décidé de quitter leur domicile pour un exil volontaire, comme elle l'appelle, chez des amis. Et puis enfin, il y a Susana et Sergio, la trentaine. Ensemble, depuis un an et demi, ils avaient décidé de passer le confinement sous le même toit, mais rien ne s'est passé comme prévu. La première semaine avait le charme de la nouveauté, raconte El País Semanal. La deuxième a été un peu moins amusante et au milieu de la troisième, les choses ont mal tourné. Ils ont discuté et un soir, en camouflant ses affaires dans des sacs de course, Sergio est rentré chez lui en marchant vite. Une sorte de séparation préventive pour éviter de ruiner complètement leur idylle. Si ces deux derniers couples entendent bien se rabibocher, les avocats spécialisés en droit du divorce s'attendent tout de même à un rebond des séparations ou des Covid-divorces, comme on les appelle, après les vacances d'été. Et oui, se voir en permanence n'a pas que du bon, assure-t-il. Et c'est paradoxal, souligne l'hebdomadaire espagnol, car les sociologues et sexologues s'accordent à dire que le couple est l'une des valeurs qui sortent renforcées de la pandémie. Le couple se présente comme un refuge contre la solitude radicale du confinement, une source stable de sexualité, une garantie de santé, en somme, un remède dans un monde qui peut soudain devenir immobile. Pour de nombreux couples, ce sera le cas, pour d'autres, absolument pas.
Alors, autre sujet majeur, la crise économique qui attend l'Europe. Vous nous proposez un article consacré à l'Italie, où l'urgence sanitaire s'est rapidement transformée en crise financière pour les communes de la péninsule, Sacha.
Absolument. Une commune italienne sur 10 est au bord du défaut de paiement. C'est ce que nous apprend le quotidien La Stampa cette semaine. Le fautif, c'est bien entendu le nouveau coronavirus. Pour comprendre les raisons de cette agonie, il faut aller lire du côté de l'Espresso. Concrètement, explique l'hebdomadaire, avec les taxes suspendues, les touristes disparus et les transports publics déserts, les recettes ont diminué de manière vertigineuse au moment même où les demandes d'aide des familles en difficulté ont augmenté. Résultat, même les grandes villes sont en difficulté. À Venise, l'absence de visiteurs a torpillé l'économie locale. À Milan, qui devrait perdre 15% de ses recettes, on se prépare à un automne difficile.
Qu'en est-il dans le sud du pays, Sacha ? On le sait, cette partie de l'Italie est déjà globalement plus pauvre que le nord.
Eh bien, c'est le même constat. À Naples, par exemple, qui était déjà en pré-faillite avant l'arrivée du virus, et puis à Bari, où le maire lance un véritable appel à l'aide. Si on ne reçoit pas des fonds tout de suite, à partir de juillet, nous ne serons plus en mesure de ramasser les ordures. Nous allons interrompre les transports publics et l'éclairage, alerte Antonio De Cario dans les colonnes de la Stampa. Pour l'heure, l'exécutif transalpin a débloqué des aides directes à hauteur de 3 milliards d'euros, mais c'est insuffisant, rétorque l'édile de Bari. Et de conclure, alarmiste, dans 2 mois, c'est tout le système des communes qui va s'écrouler, et avec lui, le pays tout entier.
Alors au Royaume-Uni, certains au contraire reprennent du poil de la bête pendant cette période particulière.
Et j'ai nommé les syndicats. C'est le magazine The Economist qui consacre un article au retour en grâce des organisations de défense des travailleurs. Depuis la mise en place du confinement dans le pays, les syndicats ont obtenu de nombreuses petites victoires. Par exemple, ils ont réussi à convaincre le patron d'une célèbre chaîne de pubs de revenir sur sa décision de ne pas payer ses salariés pendant la crise. Et ils ont aussi obtenu une meilleure rémunération des intérimaires. Mais ces victoires sur le terrain, elles n'expliquent que partiellement le regain d'influence des syndicats.
Comment ça s'explique alors?
L'autre facteur, nous dit The Economist, c'est l'unité souhaitée par le gouvernement dans la guerre contre le Covid-19. Les organisations ont ainsi été invitées à collaborer étroitement avec les autorités pour mettre sur pied le programme de sauvegarde de l'emploi, une mesure qui garantit la prise en charge par l'État de 80% du salaire des employés touchés par le ralentissement de l'activité. En fait, c'est bien simple, le mouvement n'avait jamais été aussi proche des hautes sphères du pouvoir depuis les années 70, assure l'hebdomadaire. Mais désormais, la question est de savoir si les syndicats sont capables de conserver cette puissance retrouvée. Selon The Economist, les premiers signes paraissent encourageants. Ces dernières semaines, les adhésions ont grimpé en flèche. La preuve, Unison, l'un des principaux syndicats britanniques, a enregistré l'arrivée de 40 000 nouveaux membres depuis le début du mois de mars. Sans compter qu'avec le déconfinement, les problématiques de sécurité et de santé vont être au centre de toutes les préoccupations. Et là aussi, les syndicats auront un grand rôle à jouer.
Merci Sacha Mitchell. Ces sujets et bien d'autres encore sont à retrouver dans le courrier international de cette semaine avec un numéro consacré à la transition écologique, santé, climat, même combat, nous dit le courrier international. À bientôt. C'est vendredi et l'heure, là aussi, de retrouver la sélection musicale de Vincent Théval après une longue pause. Bonjour Vincent.
Bonjour Léalisa, bonjour à tous.
Vous nous embarquez aujourd'hui vers les sonorités de la musique tzigane avec le collectif hollandais Amsterdam Klezmer Band, fondé en 1996, Vincent.
Après 25 ans d'existence et une quinzaine d'albums, le collectif hollandais Amsterdam Klezmer Band n'a rien perdu de son énergie et de sa bonne humeur. À ses débuts, le groupe s'est fait remarqué en sortant sa musique au grand air. Les rues, les places, les parcs de la ville étaient les scènes naturelles de cette musique festive. Aujourd'hui, l'Amsterdam Klezmer Band se produit dans le monde entier pour perpétuer et vivifier la tradition des musiques klezmer et tzigane avec ses propres compositions. Et pour briser la routine, le groupe s'est pour la première fois adjoint les services d'un producteur sur son nouvel album Fortuna. Le producteur en question a demandé à chacun des membres du collectif d'écrire un morceau pour un autre membre, une façon ludique de renouveler l'inspiration de chacun.
Était réalisé par Laurie Plisson aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux reportages européens. D'ici là, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr où vous pourrez retrouver toutes nos émissions en podcast et écoute illimitée. Gardez vos distances. À lundi.